Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, des clés cette semaine pour être accompagnée avec cette figure du vénérable Père Marie-Antoine de Lavaur et surtout avec Père Jean-Marcel Rossini, gardien de cette fraternité des Capucins ici à Lourdes. Vous êtes un chapelain ici à Lourdes et on peut d'ailleurs vous suivre pendant le chapelet de 15h30 sur TV Lourdes et puis la messe de 10h qui est retransmise sur la chaîne de KTO.
Depuis la grotte, oui.
Depuis la grotte. La grotte, un lieu de grâce pour vous.
Oui, un lieu de grâce.
Marcel, oui. Hein?
Bernadette disait, la grotte, c'est mon ciel.
Le ciel aussi du Père Marie-Antoine,
hein,
quand il,
oui.
qu'il venait ici, puisqu'il a missionné pendant, vous l'avez dit et redit, missionné pendant près de 40 ans.
C'est lui qui accompagnait les premiers pèlerinages.
Et il s'arrêtait des heures et des heures, on imagine, au pied de Massabielle. Oui. Donc, un ciel ouvert et un lieu de grâce, un lieu de miracle, un lieu de conversion, un lieu de toutes les libertés. Alors, liberté, alors, dans cet ouvrage par édition du Cerf que vous avez en fait écrit presque à deux mains. Travailler à deux mains.
Oui, travailler
et
à
je
demain.
Salue et nous saluons Jacqueline Baillet. Ce livre s'intitule Un pionnier de la nouvelle évangélisation, page 215, sur cette liberté de conscience. Donc, un petit extrait, je lis. Bernadette se contenta de dire les deux mots qu'a dit toujours l'Église en face de toutes les puissances et de toutes les fureurs. Je ne puis me taire. Dieu qui est mon maître, Marie qui est sa mère, m'ordonne de parler. Je ne suis pas. Bernadette, cette figure qui plaisait tant, cette petite sainte au Père Marie-Antoine de Lavaur, était finalement dans ce chemin d'audace missionnaire. Elle ne pouvait pas rester dans une attitude de silence qui pourrait devenir un silence mensonger. Besoin de dire cette vérité à temps et à contre-temps, malgré les contradictions, même si de son temps, on pouvait la prendre pour une folle.
Oui. Alors, autour de je ne suis pas là pour vous le dire, mais pour vous le faire croire, mais pour vous le dire. Hein, ceux qui voulaient qui l'accusaient de mentir, tu veux nous faire croire. Non, non.
Alors qu'est-ce qu'il veut nous faire dire? Qu'est-ce qu'on peut lui faire dire au Père Marie-Antoine, qui est aussi un visage, une figure pour notre temps et dans ces temps que nous connaissons, des temps bien troublés, des temps de combat, des temps de lutte, Père Rossini.
Oui, oui, nous sommes en... L'image de la guerre de tranchées me vient un peu à l'esprit, mais c'est vrai. Nous évoquions cette liberté de conscience, liberté religieuse. En évoquant cela, moi, je pense toujours à ce que disait le pape François au retour de son voyage au Maroc. Il disait que la liberté de conscience et la liberté religieuse ne se limite pas seulement, et c'est assez actuel, hein, à la liberté de culte, mais doivent permettre à chacun de vivre selon sa propre conviction religieuse. Et liberté de conscience et liberté religieuse sont inséparablement liées à la dignité humaine. Hein, et moi, je crois que ça, c'est très important. Et le pape insistait beaucoup sur cet aspect-là. Hein, ne pas faire marche arrière quand nous revenons, nous pensons à la liberté de conscience. Il donnait des exemples. Hein, il pensait aux institutions hospitalières, etc. Et il s'étonnait que l'Église est allée de l'avant sur la liberté de conscience et que des pays soi-disant chrétiens vont en arrière. Hein. Et le pape disait exactement que nous courons le danger que certains gouvernements retirent la liberté de conscience, qui est, après, le premier pas vers la liberté de culte. Et comme vous l'avez souligné, le Père Marie-Antoine, à sa mesure et en son temps, il a été très sensible à ces sujets. Vous avez cité Bernadette, et sa fidélité à sa conscience religieuse, elle n'a pas flanché. Elle n'a pas flanché. Et le Père Marie-Antoine cite aussi, en son temps, il affronte, plus qu'il ne cite, les persécutions religieuses, qui étaient vraiment terrible. On pense à la suppression des écoles, de l'interdiction d'enseignement, on pense à la fermeture des couvents et l'exil des religieux, d'abord en 1880 et en 1907. Voilà, des difficultés qui sont bien présentes, hein.
Dans cet ouvrage, toujours autour de cette liberté, page 219, un extrait, je me permets de lire, du Père Marie-Antoine dans votre livre, qui dit « Aux ennemis de l'Église, opposons la solidarité catholique, soyons ardents et actifs, la lutte s'annonce rude et terrible. Ne nous contentons pas de nous défendre, prenons résolument l'offensive, n'oublions pas que la force de nos adversaires est surtout faire de notre faiblesse. Prions comme si Dieu faisait tout, mais agissons comme s'il ne faisait rien. Défendons, surtout jusqu'à la mort, la liberté d'enseignement contre laquelle s'acharne Satan, et revendiquons à grands cris et jusqu'au sacrifice de notre vie le droit saint et le devoir sacré qu'a le père de famille de faire élever ses enfants selon sa conscience. » C'est un extrait, c'est une des paroles fortes du Père Marie-Antoine. Dites-moi, ce Père Marie-Antoine est visionnaire, c'est un prophète pour ce 21e siècle. Cette liberté religieuse, cette liberté dans l'enseignement, Père Jean-Marcel Orossini, c'est une voix forte.
Le Père Marie-Antoine,
c'est une plume, il est partout, le Père Marie-Antoine, sur tous les fronts.
Il est sur tous les fronts et il est en concession.
Vous permettez, mais ce Père Marie-Antoine, c'est une figure qui semble, dans cette mission de capucin, mission d'apôtre, ne craindre que Dieu, mais ne pas craindre les hommes.
Et c'est exactement
ça. C'est ce qui le caractérise.
Mais c'est ce qui le caractérise parce qu'il était complètement ancré en Dieu.
Permettez-moi, mais au fond, c'était un père capucin, un homme libre.
Tout à fait. C'était un homme libre parce qu'il était, comme je l'ai dit, ancré en Dieu. Il savait que tout ce qu'il avait, tout ce qui était à lui, lui venait de Dieu comme un don gratuit, qu'il était appelé à restituer tout simplement.
Alors, quel est le charisme très précis du Père Marie-Antoine ? C'est cette audace ? Aucune peur d'un gouvernement à son époque ? Je rappelle que le Père Marie-Antoine, c'est le 19e siècle, mais visionnaire aussi pour l'époque et le temps que nous vivons, des temps troublés.
Le charisme du Père Marie-Antoine, c'est pas simplement... comment dire, cette force, mais c'est aussi une extrême douceur en annonçant l'amour et la miséricorde de Dieu. Il y a une force, c'est très clair ça, hein, parce que pour lui, la vérité, elle est dans l'Église et pas ailleurs, mais il nourrit aussi un extrême respect pour les autres religions, hein. Mais d'un autre côté, c'est une extrême douceur parce qu'il accueille ceux qui viennent, il les accompagne, il les corrige. Il fait un peu ce que faisait un Dieu dans le désert avec le peuple. Hein. J'ai lu il y a très longtemps un livre qui commentait la pédagogie divine avec le peuple d'Israël, qui disait « Dieu corrige, encourage, illumine son peuple et il le corrige ». C'est exactement ce que fait le Père Marie-Antoine, il guide, il encourage, il illumine et quand il faut, de façon assez vigoureuse, il sait corriger aussi son peuple.
Donc ce Père Marie-Antoine, c'est à la fois une figure qui exerce l'autorité comme peut l'exercer un père, et cette douceur au fond, la douceur d'une mère, la douceur de celle qui aussi l'accompagne dans sa vocation, la Vierge Marie.
Il est franciscain, le Père Marie-Antoine.
Alors qu'est-ce qui...
Vous savez, François d'Assise recommandait à ses frères aussi d'avoir la douceur d'une mère les uns envers les autres, mais le Père Marie-Antoine, il a su vivre cela même... avec les personnes qu'il rencontrait, qu'il était donné de rencontrer. Que fait une mère quand son enfant se trompe, s'égare? Vous en savez quelque chose peut-être, Nathalie?
Oui, je suis moi-même maman.
Et donc elle le corrige, elle l'exhorte. Et c'est ce que faisait le père Marie-Antoine. Comme je disais, il est souvent sans concession, il l'était particulièrement avec les protestants, mais il ne cache jamais l'estime qu'on doit avoir pour un protestant sincère, parce qu'il reconnaît le bien là où il est.
Force et douceur chez le père Marie-Antoine.
Oui.
Qu'est-ce qui faisait un tel succès? Et on termine cet entretien du jour sur ce succès de son temps, du père Marie-Antoine. C'était des foules et des foules qui l'écoutaient, qui le suivaient. Au-delà de tous les miracles, au-delà de toutes les prédications, c'était quoi? Quelle était cette particularité du père Marie-Antoine?
Je crois simplement qu'il vivait ce qu'il disait. Moi, je crois que c'est ça, ce qui est important. Et quand il cherche à pointer l'erreur, c'est tout simplement pour obliger son interlocuteur à une conversion, à un retour à la foi. Et c'était ce que faisaient tous les prédicateurs de son temps. Il était pleinement dans son temps, et c'est ce que nous essayons de faire avec des mots différents, mais aujourd'hui encore.
Merci Père Jean-Marcel Rossini. On peut se procurer toujours et commander cet ouvrage aux éditions du CERF, un pionnier de la nouvelle évangélisation, plein de propositions donc du Père Marie-Antoine, qui depuis est vénérable, depuis le 23 janvier 2020, missionnaire capucin décédé en 1907. Je vous propose de vous retrouver demain, Père Jean-Marcel Rossini, chapelain ici à Lourdes, et nous enregistrons pas très loin de cette grotte Massabielle. On poursuit pour apprivoiser, peut-être cheminer, et puis demander l'intercession en ces temps troublés du Père Marie-Antoine. On parle aussi de ce chemin de sainteté, voilà, et de tous ces saints qui ont aussi fait cheminer le Père Marie-Antoine de Lavaur. À demain.
À demain.